bienvenue sur CFG.
Bonjour à tous, dans notre émission d'aujourd'hui, rencontre d'auteurs, visite d'Oradour-sur-Glane et musée de la BD d'Angoulême.
Un œil sur le passé.
Nous avons rencontré l'écrivain Christophe Lambert et nous lui avons posé quelques questions sur sa vie professionnelle et sur ses livres.
Christophe Lambert est un écrivain français né en 1969 à Châtenay-Malabry en France. Il a fait des études de cinéma et a réalisé plusieurs courts-métrages. Il a aussi travaillé pour la télévision, notamment pour la chaîne M6. Il a dirigé des ateliers de vidéo dans des collèges. Depuis ses débuts dans l'écriture, en 1996, il a écrit des livres de genre historique, d'aventure, de fantastique et de science-fiction. Il a publié 63 ouvrages, dont 2 nouvelles, 7 romans pour adultes, 54 romans jeunesse, dans lesquels il y a 3 séries. La série Wakfu, la série Dofus, la série Les Chroniques d'Arcadie. Il y a aussi des romans indépendants. Il a coécrit certains romans avec Sam Van Steen.
Alors, pourquoi j'ai choisi le métier d'écrivain ? Parce que j'ai toujours voulu raconter des histoires, en fait. J'ai toujours voulu communiquer avec les autres en racontant des histoires. Quand j'avais votre âge, ce qui me branchait le plus, c'était la bande dessinée. Alors après, j'ai fait du jeu de rôle. Il y a un jeu de rôle qui est très connu qui s'appelle Donjons et Dragons. Et quand j'avais fini les parties de jeu de rôle, j'écrivais des romans, toujours sur des cahiers Clairefontaine à petits carreaux. Donc j'ai dans mes tiroirs plein de romans comme ça, avec plein de fautes d'orthographe, mais que je faisais circuler auprès de mes camarades. Et comme je voyais que mes copains de classe étaient intéressés par mes histoires et qu'ils avaient envie de connaître la suite, ça m'a donné confiance en moi, dans mes talents de raconteur d'histoires. Je ne savais pas encore dans quel domaine j'allais atterrir, mais je savais que je voulais raconter des histoires.
Qu'avez-vous suivi comme études ?
J'ai passé un baccalauréat B, économie. Et après, j'ai fait mon service militaire au service cinéma des armées. Il y avait encore le... Et j'ai fait une école de réalisation qui s'appelle l'ESRA.
Faites-vous beaucoup de recherches d'informations avant d'écrire ?
Dans le cadre des romans historiques, oui. J'essaye de me documenter, a fortiori pour un sujet très sensible comme les camps de concentration. Là, je suis même allé sur place à Terezín, à Terezínštát. En République tchèque, j'ai pris des photos, j'ai vu où étaient situés les bâtiments, j'ai essayé de m'imprégner du lieu, des vibrations qui émanent encore du lieu. C'est toujours mieux de se déplacer.
Pourquoi avez-vous voulu traiter des camps de concentration et du théâtre dans Lever de rideau sur Térésine et en combien de temps l'avez-vous écrit ?
Alors, Lever de rideau, l'idée vient de mes rencontres dans les classes après Swing à Berlin qui avait très bien marché, qui avait été sélectionné pour le prix des Incorruptibles. À chaque fois que je passais dans une classe, les élèves me demandaient une suite. Pour moi, c'était pas une fin ouverte. Hein. En fait, mes personnages sont dans un théâtre où il y a plein de nazis, de soldats allemands. Ils sont faits prisonniers. Une fois que le rideau est retombé sur la scène, ils sont capturés. Donc je raconte pas ce qui leur arrive ensuite, mais on peut imaginer qu'il leur arrive de gros problèmes. J'ai passé en revue les endroits où on déportait des artistes, des musiciens. Et le camp le plus connu dans ce registre-là, c'était Térésínštát. Slovaquie, à essayer d'imaginer une intrigue avec mes 4 héros musiciens, mais en même temps, j'avais pas envie de refaire la même chose, j'avais pas envie de reparler de la musique, j'avais déjà fait ça dans Swing à Berlin. Donc je me suis dit quel autre art je pourrais tester, et en réfléchissant, le théâtre s'est imposé à moi. Et pourquoi le théâtre ? Parce que le camp a eu cette spécificité d'être visité par la Croix-Rouge. Donc ça, il y a une délégation de la Croix-Rouge qui est venue à Térésine. Il faut savoir que le roi du Danemark voulait s'assurer que ses sujets, les juifs danois qui avaient été déportés, étaient bien traités. Et comme les Allemands ne voulaient pas se brouiller avec le Danemark qui était neutre, ils ont accepté que la Croix-Rouge vienne visiter le camp de Térésine. Donc trois délégués ont été mandatés là-bas, ont été envoyés là-bas. Et le camp de Térésine s'est transformé en une gigantesque scène de théâtre, avec des fausses boutiques, une fausse banque, une fausse poste. Les gens, les prisonniers, les déportés étaient habillés avec des vêtements neufs. On mettait au premier plan ceux qui venaient d'arriver, qui n'étaient pas encore trop maigres ou trop malades. On avait construit des aires de jeu pour les enfants, des bacs à sable, des balançoires. On avait donné de la nourriture, des sandwichs, des tartines de beurre ou de margarine pour faire croire que tout allait bien, que c'était une ville normale. Et la ruse des nazis a fonctionné au-delà de leurs espérances, puisque les gens de la délégation ont trouvé la ville très très bien, on trouvait le camp tout à fait décent. Donc ça a marché. Mais moi, je trouvais intéressant que le camp qui devient une pièce de théâtre, je trouvais intéressant qu'il y ait un effet miroir avec mes héros qui préparent la pièce de théâtre, qui va elle-même servir à une évasion. Donc voilà comment le théâtre s'est imposé à moi. En plus, j'avais envie d'écrire une pièce qui est à la fin du livre. C'était un petit challenge personnel que j'avais envie de me fixer. Donc une pièce en alexandrin, en plus.
Dans l'or et la boue, pourquoi avoir traité la bataille de Verdun et non un autre événement de la Première Guerre mondiale ?
Alors, L'or et la boue, c'est une commande. La collection venait de se lancer, les romans de la mémoire. Donc, on m'a demandé d'écrire quelque chose autour de la Première Guerre mondiale. C'était ça le but, c'était ça le cahier des charges. Donc, j'ai réfléchi. Verdun s'est assez rapidement imposé. C'était la bataille sur laquelle j'avais le plus de documentation. Et puis j'ai eu vent de cette espèce de relique archéologique qui se trouve pas loin de Verdun, à côté d'un village martyr. Parce qu'il y a eu des villages martyrs aussi pendant la Première Guerre mondiale, pas que pendant la Deuxième. Bon, des villages qui ont été bombardés, en fait, plus que rasés à coups de fusils ou de lance-flammes. Mais il y a eu aussi des villages martyrs.
Dans Lever de rideau sur Térésine, pourquoi avoir mis en lumière des Juifs qui ont un certain statut social comme un artiste ?
Parce que le camp de Térésine était le camp où étaient envoyés tous les savants, les intellectuels, les dramaturges, les musiciens, les artistes. Fatalement, pour être conforme à la réalité historique, j'ai respecté ça.
Les thèmes de la guerre vous passionnent-ils ?
Oui, la guerre m'intéresse beaucoup, et particulièrement la Seconde Guerre mondiale. Parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment la guerre où les civils ont commencé à souffrir autant, si ce n'est plus, que les hommes, les soldats qui étaient sur les champs de bataille, quoi. Et j'espère qu'en lisant les livres, les lecteurs se demandent, et moi aussi, qu'est-ce que j'aurais fait durant cette période particulièrement troublée ?
Un grand merci, Monsieur Lambert, d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir accordé ce moment de partage.
Merci à vous.
Nous avons lu quelques œuvres de Christophe Lambert, donc voici une brève présentation ainsi que les avis de certains élèves.
Les élèves ont lu certains des livres de Christophe Lambert. Meurtre à 30 000 mètres par seconde. L'histoire se passe en 2247 dans un vaisseau qui s'appelle le Space Beagle 2. Alex et son ami Puck, un robot, ont cherché le mystérieux assassin de certains membres de l'équipage. Mais ils ne seront pas au bout de leur peine, car ils vont avoir à identifier le bon. Nous allons entendre le sentiment de Lucas sur ce livre.
J'ai envie de lire dès que j'ai eu entre les mains. C'est la première fois que j'arrive à lire un livre jusqu'au bout. Les nombreux rebondissements donnent de l'action au livre. J'aime bien le livre de science-fiction.
Et toi Thomas, qu'as-tu pensé du livre « La nuit des mutants » ?
Au début, j'avais envie de lire le livre jusqu'à la fin, car l'histoire est vraiment très intéressante. Et j'aime bien les livres de science-fiction, ce livre ne m'a pas déçu.
L'or et la boue. Ce sont deux soldats qui se rencontrent pendant la Première Guerre mondiale, entre les tranchées françaises et allemandes, pendant la bataille de Verdun. Ils cherchent des trésors. Maintenant, Célia nous fait part de son ressenti.
Vive l'or et la boue. Au début, Martin et Casimir ne se connaissaient pas. Ils sont devenus inséparables. J'ai bien aimé quand ils cherchaient le trésor, car je me demandais s'ils allaient arriver à creuser le tunnel jusqu'à ce butin. Heureusement que Jean de Bruquy les a aidés en leur vendant des rondins de bois.
Lever de rideau sur Térésine. C'est l'histoire d'un armateur juif qui s'est fait déporter au camp de Térésine, masqué en village. Le chef SS est un fan des écrits du héros et lui demandera de créer une pièce pour la visite de la Croix-Rouge. Morgane nous donne son avis sur ce livre.
J'ai beaucoup aimé lire le livre, il est plutôt facile à lire, il est très pertinent, les personnages sont attachants, on voit une évolution sur le personnage de Victor, la pièce de théâtre à la fin, très originale.
Swing à Berlin. En 1942, le ministre de la Propagande ordonne que l'on crée un groupe de jazz. Il demande à un vieux pianiste de l'aider. Nous allons écouter Océane.
En Swing à Berlin, j'ai beaucoup aimé ce roman jeunesse car c'est un bon roman historique qui parle de la Seconde Guerre mondiale d'une manière différente. Notamment le fait que les héros soient des civils mais en plus des adolescents qui partagent leur goût pour la musique. Ce livre est simple à lire avec une écriture facile.
Maintenant, je passe la parole à Savannah qui va nous raconter le drame d'Oradour-sur-Glane suivi du témoignage de Monsieur Hébras.
Nous nous sommes rendus à Oradour-sur-Glane le mardi 11 avril. Le massacre d'Oradour-sur-Glane et la destruction, le 10 juin 1944, de ce village de la Haute-Vienne situé à environ 20 km au nord-ouest de Limoges, et le massacre de sa population, 642 victimes, par un détachement appartenant à la Panzerdivision, Dachreich de la Waffen-SS. Il s'agit du plus grand massacre de civils commis en France par les armées allemandes. Cet événement marqua profondément les consciences. En 1945, le général de Gaulle visite le village martyr et décide d'en conserver les ruines dans un souci de devoir de mémoire. Depuis 1999, le centre de la mémoire d'Oradour a été construit pour honorer le souvenir des victimes, située non loin des ruines du village. Lors de notre visite, nous avons eu la chance de rencontrer Robert Hébras, le dernier des 6 rescapés à avoir survécu au drame d'Oradour. Au moment des faits, Robert Hébras avait 19 ans. Le 10 juin 1944, il pensait passer une journée banale en planifiant une après-midi avec ses copains, mais lorsque les SS débarquèrent, il ne s'attendait pas à ce qu'il leur arriverait. D'abord, M. Hébras nous parle de sa petite sœur et également du fait que les villages auraient pu prévoir l'arrivée des SS.
Donc, la population est rassemblée ici. Moi, je retrouve ma petite sœur qui est avec son institutrice, ses institutrices. Je vais l'embrasser pour l'embrasser, mais ça, parce que je la sens un petit peu anxieuse, mais sans crainte quoi que ce soit. Parce que c'est difficile aujourd'hui à vous faire revenir 70 ans en arrière. 70 ans en arrière, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans sa poche, il y a Internet, il y a tout. Tout va très vite. À l'époque, ce n'était pas le cas. Déjà, nous étions sous l'occupation. Donc, c'était sous le régime de Vichy. Et ce qu'il y a, c'est que la veille, à Tulle, il y avait eu quand même 19 hommes qui avaient été pendus. Et tout ça, nous ne le savions pas. Si nous l'avions su, peut-être qu'on se serait certainement méfié, on aurait fait attention.
Robert Hébras nous explique la séparation des hommes et des femmes avec leurs enfants.
Et quand toute la population est sur la place, des soldats passent au milieu du groupe et séparent les femmes et les enfants qu'il faut mettre de ce côté-là. Et nous, les hommes, on nous fait mettre sur le trottoir de ce côté.
Puis M. Hébras revient sur le calvaire qu'il a vécu dans la grange, entre ses amis morts, les Allemands qui y mettent le feu et se ressentit là-dessus.
On s'est retrouvés ici en groupe, couchés, ils ont installé leurs armes, on les a regardés faire, on les a regardés installer leurs armes. Et comme ils nous ont dit, on vous garde, eux sont 5, nous on est entre 50 et 60, parce que là aussi, on ne connaît pas le nombre exact. Les 5 survivants, on a dit tous à peu près la même chose, entre 50 et 60. Et il fait très chaud ce jour-là. Et à un moment donné, il y a ce soldat-là, qui n'est pas comme les autres, qui fait le tour du groupe. Arrivé à notre hauteur, il nous fait signe. Et le temps qu'il revienne à l'entrée, à peu près à l'entrée, il y a une détonation dans le village. Et c'est le signal de la fusillade. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est que les autres m'ont préservé. Je ne peux pas dire autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Je me suis retrouvé sous les autres. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Après, c'est le coup de grâce à tous ceux qui voient qu'ils ont une brin de vie. Et puis, on nous couvre de tout ce qui peut brûler. Et puis, on met le feu sur nous. Et quand le feu m'atteint, ben, j'ai plus de choix. Ou je sors. Mais je ne veux pas mourir brûlé vif, c'est tout.
Ensuite, il nous parle de ce que Mme Roufanche a subi dans l'église.
Donc, moi, le témoignage de Mme Roufanche, elle dit au milieu de l'église, dans l'allée centrale, deux soldats ont déposé une caisse sur deux chaises. De cette caisse, des mèches sortaient. Ils ont allumé ces mèches et ils sont partis. Il y a eu une explosion dans l'église où c'est venu tout noir. Et Mme Roufanche dit, on respirait très difficilement. Et puis elle m'a dit, après, on a pu respirer normalement. Ce qui s'est produit, c'est que dans l'explosion, les vitraux ont volé en éclats, ce qui a permis de respirer. Parce que dans l'église, une seule personne a survécu, Mme Roufanche. Seuls deux petits garçons calcinés qu'on a retrouvés dans le confessionnal. Tout le reste, c'est des cendres et des ossements. Il n'y a aucun autre corps d'identifié. Je dis bien aucun autre corps d'identifié.
Il nous parle ensuite des morts qui ont été identifiés.
Chaque lieu d'exécution, on ne connaît pas le nombre exact. Ce qu'on sait, c'est que c'est 642 victimes. Et sur les 642 victimes, il n'y a que eu 52 corps identifiés. Je ne sais pas si vous imaginez, 52 corps identifiés. Le reste, c'est des cendres et des ossements.
Il nous parle également de ses souvenirs quand il revient à Oradour.
C'est difficile à vous expliquer, mais moi, lorsque je suis ici, et surtout si j'y viens seul, moi, dans chaque porte, chaque fenêtre, c'est un visage. Mais ce n'est pas qu'un visage, c'est les bruits, c'est l'enclume du forgeron, c'est la cloche de l'église qui sonne, c'est les machines des menuisiers qui fonctionnent. Et puis c'est l'odeur, parce qu'aussi il y a l'odeur de, à l'époque, souvent les agriculteurs traversaient le village avec leurs vaches, et il y avait la, dans les rues, il y avait les poules, il y avait les chiens qui se promenaient, il y avait les poules, il y avait, c'était un village rural. Lorsque je parle de mes amis qui sont morts et tout, leur visage est dans mon, dans mon esprit quand même.
Et pour finir, les élèves demandent à M. Hébras où est-ce qu'il a trouvé la force pour leur parler de tout ça aujourd'hui.
Je ne sais pas. La force, je pense que c'est ceux qui ne sont plus là qui me la donnent. C'est pour eux que je le fais. C'est pour eux que je fais ce que je fais pour qu'on ne les oublie pas. Parce que demain, lorsqu'il n'y aura plus de témoins, qu'est-ce qui se passera? Et je compte sur vous. Je compte sur les jeunes, sur la jeunesse.
Il y a quelques jours, nos journalistes étaient sur le site du village martyr de Radour-sur-Glane. Écoutons-les.
Donc, comme nous l'a dit précédemment notre journaliste Savannah, nous sommes allés à la rencontre du dernier survivant du drame d'Oradour-sur-Glane, M. Hébras. Ensuite, nous sommes partis visiter le village martyr, où nous avons pu observer les endroits où les hommes, les femmes et même les enfants ont été froidement abattus et brûlés par la suite. Ce qui nous amène à écouter les impressions d'élèves de 3e 5.
Comment avez-vous trouvé la visite ?
J'ai trouvé la visite très intéressante. Il y avait une bonne ambiance avec toutes les classes et le témoignage du dernier rescapé était très émouvant.
La visite était plutôt intéressante et il y avait une super bonne ambiance.
J'ai trouvé la visite très émouvante. On était imprégné des sentiments. On ressentait tout ce qui s'est passé là-bas, le drame. On s'imagine ce qui s'est passé. On se remémore. Enfin, on vit le village. On vit comme si on était là-bas. C'était vraiment très triste.
Qu'avez-vous ressenti et comment l'avez-vous vécu ?
Moi, ça m'a troublé. J'étais ému parce qu'il y a eu beaucoup de morts pour rien dans un si petit village.
J'étais choquée au début d'être dans un village où autant de morts, autant de personnes ont été exécutées. Et surtout, ce qui m'a choquée, c'est qu'on savait exactement où les personnes avaient été exécutées.
J'ai ressenti beaucoup de tristesse. Je me suis sentie très très mal, faut le dire. Et tout ce que disait Monsieur Hébras, je le ressentais. Je ressentais beaucoup ce qu'il disait. Je regardais dans les yeux, je voyais sa tristesse. Du coup, ça me rendait vraiment très très mal. Voilà, c'était vraiment très émouvant.
Quels endroits vous a le plus marqué ?
L'endroit qui m'a le plus marqué, en fait, c'est tout le village, parce que savoir que les gens ont été brûlés là, les voitures brûlées.
Moi, l'endroit qui m'a plus marqué, c'est l'église, parce que c'était vraiment le plus choquant. On s'imaginait la scène, on avait l'impression de marcher sur les corps morts. C'était vraiment très troublant.
Voilà, d'après les témoignages remplis d'émotions des élèves que nous venons d'entendre, nous comprenons la tristesse de leurs paroles sur ce village martyr, incendié par les nazis.
Un nouveau regard.
Maintenant à Océane qui va nous parler de l'histoire et de la visite du musée de la BD.
Le plus grand musée de BD d'Europe se trouve à Angoulême. Nous avons eu la chance de nous y rendre. Ce musée a été construit en 1857, puis a été transformé en usine à feutres. Le musée a deux lieux principaux. La passerelle Hugo Pratt permet de passer de la Cité internationale de la BD et la bibliothèque réservée aux BD et salle d'exposition. Le musée compte plus de 12 000 planches et dessins originaux que nous avons pu observer. On a pu voir différents héros de BD ainsi que l'histoire de leurs inventeurs. Ensuite, nous avons été voir l'exposition de Will Eisner qui parle particulièrement de BD policière.
Place à Laura qui va nous parler de l'exposition « Pour les yeux du monde » qui se trouvait au musée de la BD.
Le musée de la BD Angoulême au vaisseau Moebius a installé une exposition temporaire photographique dans le cadre du festival « Les Moïs photographiques ». Cette année, le thème est l'histoire et les petites histoires, et l'exposition que l'on a vue s'appelle « Pour les yeux du monde ». « Pour les yeux du monde » est une association humanitaire caritative qui apporte des soins médicaux ophtalmologiques gratuits à des populations défavorisées au Cambodge et à Madagascar. Cette association a été créée par le docteur Fatem Lim. Fatem Lim s'aperçoit très vite des lacunes du Cambodge par rapport à notre pays. En effet, il n'y a que 8 ophtalmologues pour 14 millions de Cambodgiens. Il a donc réuni une équipe d'ophtalmologues français qui va soigner et opérer. Cette équipe se déplace sur un bateau typiquement khmer. Le photographe de l'exposition s'appelle Jean-Daniel Gilou. Il a suivi une mission en 2011 sur la jungle transformée en clinique pour les yeux sur le Mekong. Il a pris des centaines de clichés et n'en a retenu que 20 qu'il a tirés en grand sur papier noir et blanc.
C'était CFG.
Nous remercions à la technique Anthony, Mathéo, Justine et Elio, et bien sûr tous nos auditeurs. À bientôt sur notre radio.